On est toujours dans Chéri, on passe à table, toujours avec Frédéric Brunel du pavé de Saint-Régis, établissement centenaire à La Louvée, boulangerie, pâtisserie. Alors on a parlé pâtisserie il y a un instant, on a parlé du Saint-Régis, on a parlé de la castagne, toutes ces spécialités ardéchoises qui nous ont bien mis l'eau à la bouche en tout cas. On va parler maintenant de la tradition française, hein, ce qui fait l'une des spécificités de notre cuisine, le pain. Alors du pain, il y en a de toutes sortes, il y en a surtout du bon et du mauvais. C'est pour ça qu'il faut acheter son pain en boulangerie, ne pas l'acheter en supermarché. Et il y a des petits trucs hein, aussi pour connaître si un pain est bon. Il existe même différentes baguettes. Vous allez nous parler de la baguette ardéchoise et nous dire qu'est-ce qui la différencie des autres. Alors, le plus simple, je pense, le mieux pour parler de son pain, c'est de laisser la parole directement au boulanger. Forcément, quand on aime boulanger, on a un coup de cœur pour le pain. C'est une histoire d'amour.
Bien sûr, bien sûr. Oui, donc des pains, il y en a effectivement de toutes sortes. Je dirais qu'il y a de plus en plus de choix. L'offre s'élargit d'année en année. Si moi on trouve encore du pain traditionnel blanc avec une mie très blanche, parce qu'il y a encore une demande pour ça.
Encore, hein.
Et puis on trouve des baguettes de tradition française à côté de ça, donc la baguette ardéchoise, et puis des pains spéciaux au levain, pain de campagne, pain de seigle évidemment.
La baguette ardéchoise, justement, c'est qu'est-ce qui la différencie de la baguette classique que je vais aller acheter tous les jours chez mon boulanger?
Alors la baguette ardéchoise, déjà, c'est un produit que vous trouverez qu'auprès d'artisans boulangers ardéchois. Mm. C'est une marque collective, donc il faut être adhérent à la marque collective pour la proposer. Il y a un cahier des charges pour la fabriquer. La farine est produite par le seul et le dernier moulin ardéchois. La minoterie Rieubon à Saint-Maurice d'Ardèche.
D'accord, un moulin, donc à Meule.
C'est en tout cas le dernier moulin qui écrase de la farine
en Ardèche. Ah ben,
donc cette farine est composée de blé, de seigle et de châtaigne.
Naturellement.
Ouais. Donc c'est un pain à fermentation lente qui fermente en masse. Il y a donc à l'arrivée une mie très alvéolée avec du goût. La châtaigne et le seigle amènent beaucoup de goût, amènent de la couleur. C'est un pain d'artisan, quoi qu'il en soit, ou que vous le trouviez. On est une petite quarantaine sur le département à la faire.
Ouais. Donc c'est important, quand on trouve une baguette ardéchoise chez un boulanger, elle a forcément toujours les mêmes ingrédients et elle doit respecter donc un cahier des charges, que ce soit au niveau de la quantité des ingrédients ou de leur provenance.
Exactement.
Ah, c'est ça.
Et leur provenance est certifiée Ardèche.
D'accord.
Le blé cultivé en Ardèche, le seigle aussi, et forcément la châtaigne.
C'est les appellations. On pourra en parler dans une autre émission. Bah, mais c'est vrai que c'est les appellations. C'est pour le fromage, c'est pareil. C'est vraiment très délimité. Le vin, c'est la même chose. Des fois, à 5 km près, vous faites plus partie de l'appellation. Voilà. Donc c'est...
Et comment on reconnaît justement une bonne baguette? Il faut qu'elle croustille sous les doigts? Il faut qu'elle ait de grosses alvéoles? Il y a une technique pour savoir?
Ah, il y a plusieurs choses. Il faut qu'elle soit cuite correctement, donc qu'elle croustille effectivement, pas qu'elle soit toute molle. Après la texture en elle-même peut varier d'un pain à l'autre. Vous pouvez passer du pain de seigle qui est très très dur, dense et très serré. Une baguette de tradition française qui va être très alvéolée, au contraire.
Et vous avez succombé un petit peu à la mode des pains spéciaux, les pains dans lesquels on va rajouter du fromage, les pains aux olives, les pains...
Pas tellement, non.
Non, vous êtes resté traditionnel.
Pas
et...
tellement.
Après, c'est le client surtout qui fait la demande. Si...
Exactement aussi, mais c'est pas une demande énorme. Moi, personnellement, je préfère aussi avoir un pain qui a du goût par lui-même.
Oui, que de devoir rajouter
des ingrédients ajoutés dessus.
C'est ça. Chacun voit midi à sa porte. Mais je veux dire, c'est vrai que le pain, moi, personnellement, pour avoir été à l'étranger et avoir mangé des pains, que ce soit aux États-Unis ou même en Australie, ça n'a rien à voir. En France, on a la culture du pain, on a la culture du goût. On a vraiment cette recherche, c'est des trucs bêtes. Mais des fois, quand on va à l'étranger, c'est juste le sel. Il manque du sel, non du pain. Et c'est fadasse, quoi. On se retrouve là, ils cherchent pas.
Oui.
Ils répondent aux besoins essentiels. J'ai faim, Je veux manger sur le pouce, je me fais un sandwich. Bon, ben voilà. La plupart du temps, vous allez aux États-Unis, c'est principalement du buns. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment du pain
brioché. Ouais.
Voilà, c'est très mou. Ils mangent beaucoup de pain de mie. Ils aiment ça. C'est parce que c'est, voilà, ils aiment ce côté sucré. Mais ils veulent pas de croustillant. Donc, c'est pour ça que le jambon beurre, on va dire, à Paris, est très, très prisé des étrangers parce que il y a cet équilibre, on va dire, dans le pain, même quand on parle du pain le plus médiocre, on va dire, que la baguette la plus médiocre qu'on peut trouver en France, mine de rien, a ce côté, on va dire, un peu plus relevé, exhausté au niveau du goût que, on va dire, un bon pain à l'étranger, des fois, parce que après, il y a de très bons artisans aussi là-haut, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Le beurre français n'a rien à voir avec un beurre américain où il y a beaucoup moins de matière grasse, et pourtant, c'est bizarre de le dire, mais c'est vraiment très, très spécial. Et c'est vrai que, justement, il faut conserver cet artisanat, il faut conserver cette tradition, parce que c'est des choses, on a toujours tendance à uniformiser les goûts, et on s'y perd, quoi.
Ouais, et puis surtout, le pain, alors, tu vas peut-être me le confirmer, Julien, ou vous aussi, monsieur Brunel, le pain sublime aussi les aliments. C'est vrai que quand certains aliments, quand on les mange avec un petit bout de pain, le goût va être différent.
C'est un ingrédient aussi à part entière. Je veux dire, on peut... Moi, je sais que quand je travaille certains desserts, je me rappelle d'une fois, j'avais fait un dessert au chocolat et j'ai pas voulu m'amuser à faire une tuile ou quelque chose. J'ai tout simplement pris un pain qui avait été fait à la pistache et à ce moment-là, pareil, taillé très fin. Et je les ai juste fait sécher un tout petit peu pour avoir ce côté un peu pain grillé. Et après, je les ai plantés dans mon dessert. Donc à ce moment-là, on apporte... Ça devient un ingrédient à part entière. Le pain, c'est une base essentielle de la cuisine française. Et justement, c'est quelque chose qui sert à sublimer, tout à fait.
Et puis... on a pas... Moi, j'ai peut-être l'impression, peut-être que je me trompe, que la consommation de pain chez les jeunes est peut-être moins importante que chez nos anciens. Moi, mes grands-parents, il était inacceptable qu'ils fassent un repas sans pain. Ma grand-mère mangeait même du pain en mangeant son orange. Et j'ai l'impression que maintenant, voilà, quand on est plus jeune, on va se dire, ah, il n'y a pas de pain, c'est pas grave, on s'en passe. Il y a peut-être une tradition qui se perd, ou c'est une impression que j'ai?
C'est possible, même probable. De toute façon, la consommation de pain est en baisse.
On en mange moins à table.
Certitude, on en mange moins.
Ouais.
C'est peut-être aussi une question de facilité, tout simplement.
On en mange moins à table quand il n'est pas là, parce que c'est quelque chose. Enfin, moi, je le vois au restaurant. Quand on met, par exemple, une corbeille de pain sur la table. Avant que les plats soient servis et tout ça, à chaque fois les serveurs des fois ils nous disent la table là ils en sont à leur quatrième corbeille. Donc les gens mangent du pain quand il est à disposition. Par contre, oui, je pense qu'on est un tout petit peu plus fainéant qu'avant parce que des fois, il faut que je sorte, il faut que je prenne la voiture pour aller acheter ma baguette.
Les habitudes culinaires aussi font peut-être qu'on a moins le temps, on va peut-être plus aller cuisiner des patates et des pâtes qui demandent...
Au jour d'aujourd'hui, c'est plus facile de faire un steak frites, à part le sandwich, on va dire l'américain, je sais pas si ça se dit ici.
Oui, on le fait aussi.
Et voilà, donc à ce moment-là, où on met justement les deux dans la baguette, mais sinon, oui, quand on mange un steak frites, ça vient pas tout de suite à l'idée de vouloir prendre du pain.
Bon, donc, continuez à manger du pain, déjà pour faire tourner les commerces de votre ville, et puis c'est très bon le pain, comme je disais, il y a certains plats qui sont sublimés par une petite bouchée de pain lorsque l'on va les goûter. Donc, et puis en plus, il y a plein de pains différents, faites-vous plaisir, testez. On va continuer à parler de tout ça, de pain, de pâtisserie également. On va essayer aussi de donner des petits conseils aux plus jeunes qui nous écoutent, qui ont envie de faire ce métier. Monsieur Brunel leur donnera des petits conseils pour gérer leur orientation professionnelle. Mais ça, ce sera après Jane sur Chéri FM.
Baby, go. On passe à table.
Chérie, on passe à table. Dernière partie de l'émission consacrée aujourd'hui au pavé de Saint-Régis, boulangerie-pâtisserie située à La Louvée en Ardèche. Une boulangerie plus que centenaire avec eh bien, le chef hein, de cet établissement, Frédéric Brunel, avec nous aujourd'hui. Et puis Julien, le chef pâtissier du restaurant Le W, qui est également avec nous. Alors on a parlé de vos spécialités, on a parlé du pain qui est, on l'a dit, l'élément emblématique de la cuisine française. On a parlé des bons pains, des baguettes ardéchoises. Justement, en ce moment, il y a un petit côté... on idéalise un petit peu hein, le métier de pâtissier, de boulanger, de cuisinier, avec toutes les émissions télé qu'il y a actuellement, tous les concours. Alors, c'est peut-être un bien pour un mal, puisque je suppose que ça doit apporter peut-être de nouveaux talents dans les cuisines. Mais il y a aussi un côté qu'on ne voit pas à la télé, c'est de ne pas dormir la nuit quand on est boulanger, en tout cas se lever très tôt, ne pas avoir de week-end quand on est restaurateur. Vous auriez des petits conseils à donner aux plus jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans le métier, en tout cas dans le métier de boulanger-pâtissier?
Oui, bah, je crois que l'essentiel, c'est l'envie. Même si ça peut ne pas être évident au départ, c'est l'envie et il faut que ça devienne une passion. Parce que comme vous le dites, les contraintes sont nombreuses, les contraintes aussi dans beaucoup d'autres métiers. Mais si on n'a pas l'envie d'abord, la passion ensuite pour accepter ces contraintes-là, c'est difficile de durer dans le métier. Mais...
si les contraintes prennent le dessus, c'est pas bon. Il vaut mieux faire autre chose.
Il vaut mieux faire autre chose, oui, bien sûr.
Ouais, surtout pareil pour la vie de couple. Alors on disait que. Alors vous, c'est pas en couple, c'est avec votre sœur, mais un boulanger et pâtissier qui sont en couple. C'est-à-dire que le mari travaille la nuit, c'est la femme qui tient le commerce la journée. Oui, c'est vraiment des métiers qu'il faut faire par passion.
C'est ça, c'est vraiment la passion. Et ce qu'a dit M. Frédéric Brunel, c'est vrai. C'est l'envie d'abord, parce que moi, quand il a dit ça, je me suis dit au final, c'est vrai, parce qu'on parle tout le temps de la passion, on dit ouais, il faut être passionné par son métier, mais il faut d'abord avoir envie. Parce que moi, j'avais envie depuis tout petit de faire cuisiner, mais par contre, je me sentais pas passionné. J'étais pas, quand j'étais adolescent, je suis désolé, mais je regardais plus des magazines de voitures et de motos, de scooters, que de livres des cuisines. J'étais pas passionné par le métier au départ, mais j'avais envie de le faire. Et c'est en le faisant que la passion est venue, et maintenant, c'est vrai que j'ai laissé les magazines de voitures et je suis plus dans les livres de cuisine. Mais c'est ça, c'est une envie qui doit se transformer en une passion. Et c'est ce qu'on disait. Moi, je le vois, il y a toujours autant. Les lycées hôteliers sont toujours autant remplis. Il n'y a pas des classes de 10 élèves. C'est toujours aussi rempli au départ. Donc moi, pour mon parcours, quand j'ai fait ma seconde BEP, on était 32 dans ma classe. Par contre, j'ai fait mes 2 ans de BEP, puis après je suis allé sur mes 2 ans de bac pro et arrivé en terminale bac pro, on n'était plus que 16. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement 50% des élèves qui sont partis avec les stages où ils se sont aperçus qu'en milieu professionnel, il y avait des contraintes. Travailler les samedis, travailler les dimanches, travailler pas mal d'heures par jour, parce que mine de rien, c'est un métier. Tous les métiers, on va dire, de l'artisanat, en général, c'est des métiers où on compte pas nos heures. Donc, c'est ces contraintes-là qui font que des fois, parce qu'on se compare tous, on est tous autour d'un verre, ou alors autour d'un repas, ou autour de pâtisserie, on discute, tiens, toi, tu fais quoi ? Moi, je travaille pour une entreprise, machin, je suis aux 35 heures, j'ai un CE, j'ai ci, j'ai ça, et toi, finalement, Ah, moi, je travaille. Je compte pas mes heures. Des fois, je dors très peu. Et au final,
mais j'ai un métier qui me plaît.
Mais j'ai un métier qui me plaît. Et c'est vrai que je le vois, même là, maintenant, pour en parler, quand j'étais au collège avec des anciens amis, je les retrouve sur les réseaux sociaux. Et ils me disent, moi, j'ai une amie là, qui était assistante sociale et qui a tout plaqué et qui est en train de faire une formation adulte, avec Pôle emploi, pour une reconversion pour devenir pâtissière, boulangère-pâtissière. Parce que c'est quelque chose qu'elle avait envie, mais des fois, les parents disent, non, tu feras pas le cursus professionnel, t'es en troisième, t'as des bonnes moyennes, donc tu veux faire du professionnel ? Non, va en bac général, tout ça. Et c'est vrai que ça, c'est des mentalités qu'il faut changer parce que, comme l'a dit Frédéric Brunel, si on a envie, il faut aller au bout de cette envie. Et si cette envie se transforme en une passion, on est fait pour ce métier. Et une fois qu'on est fait pour ce métier, on a l'impression que, je sais pas, moi, au moment où j'ai eu ce déclic-là, les choses allaient d'elles-mêmes, quoi. C'est allé tout seul. Et à ce moment-là, on comprend, on est dans le métier, on le ressent. Et c'est autre chose.
Le mieux, peut-être, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est avant de se lancer dans des études, c'est de connaître quelqu'un qui tient un établissement et lui demander d'aller donner un petit coup de main pendant une semaine pour vraiment se rendre compte de ce que c'est.
Voilà, en troisième, les stages découvertes. Il faut vraiment, il faut y aller. C'est maintenant que c'est au moment où on a vraiment plein d'idées, plein d'envies. On fait tous ces stages. Ça dure une semaine, ça dure deux jours, ça dure trois jours. Et c'est ce qui fait que, on se fait une idée. On se fait une idée. Parce que des fois,
On va terminer cette émission par une petite recette.
Ouais, pourquoi pas.
On se fait une petite soupe de châtaigne.
Une soupe de châtaigne. Là, on est vraiment dans la châtaigne, là, pour le coup. Donc, on va vraiment partir sur une soupe de châtaigne. Donc, pour le coup, on va juste prendre pour 1 litre 250 de lait. On va y mettre dedans 500 g de châtaigne fraîche ou surgelée, parce que là, c'est plus trop la saison. Donc, si on peut les trouver en surgelée, c'est pas un drame.
Celles qui sont déjà cuites, là, qu'on trouve pour mettre justement avec la nano marron, ça marche aussi ?
Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Mais il faut juste qu'elles soient nature, pas aromatisées au miel, okay. Nature. Donc à ce moment-là, on part après pour 500 g de châtaigne, comme on l'a dit, donc 280 g de pâte de marron et 150 g de crème de marron et 5 g de fleurs de sel. Donc on met tout ça à feu doux. Le lait va justement faire cuire, on va avoir ce liant qui va être cette crème de marron et cette pâte de marron. On mixe le tout pendant une minute assez fort, histoire vraiment. Moi, je le passe au chinois, donc je le passe bien fin dans une passoire très fine pour justement éviter qu'il y ait des morceaux et que ça soit très lisse en bouche. Et puis après, on peut servir ça. Moi, je servais ça avec une écume d'agrumes, mais on peut très bien mettre des suprêmes de pamplemousse, d'orange qui vont donner ce petit peps à la châtaigne et qui va très très bien ensemble. Et puis, c'est vraiment une petite soupe qui se mange à la fois chaude, tiède ou même froide. Il n'y a pas de souci.
Tu mets pas de remarque, j'allais dire, tu mets pas de sucre. Il y a la pâte de marron, il y a la
crème
de marron.
Voilà.
Oui,
ça
voilà.
Sert à rien de rajouter du sucre pour du sucre. Là, c'est la châtaigne, elle est mise en valeur et en même temps, ça sert à rien de mettre du sucre. Si là, j'ai une crème de châtaigne qui, pour le coup, est déjà sucré et ça
Et comme ça on a un petit dessert 100% ardéchois
et 100% châtaigne même
et qui ravira vos convives. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission Chérie on passe à table. Merci à Frédéric Brunel du pavé de Saint-Régis, boulangerie pâtisserie à La Louvée, d'avoir été avec nous. Je vous avais dit en début d'émission que je vous ferais gagner un repas pour deux à l'Auberge du Lac, l'un des deux établissements du nord de la vallée du Rhône à avoir été primé au dernier Michelin. Il fallait avoir suivi cette émission. Rappelez-vous, au tout début, on a parlé des spécialités que proposait le pavé de Saint-Régis. On a parlé de deux gâteaux emblématiques de la région. Eh bien, appelez-moi au 04 75 67 23 92. Citez-moi-en seulement un et je vous offre un repas pour deux à l'Auberge du Lac. Et merci encore une fois d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Tout de suite, voici Jean-Jacques Goldman.